Voici une question qui va nous conduire vers un enseignement fascinant. Est-ce que le monde entier verra Jésus quand il reviendra? Nous allons connaître la réponse que donne la parole de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. J'aime beaucoup qu'on m'enseigne concernant la fin des temps. Voici des questions dont certaines sont en rapport avec ces temps. Quel est le signe de la fin du monde? Y a-t-il plus d'une façon d'être sauvé? Est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ est le seul qui ôte le péché du monde? Comment les gens étaient-ils sauvés avant la venue de Christ? Est-ce que la croissance phénoménale de la population mondiale est une indication que nous approchons de la fin des temps? Est-ce que les gens reconnaîtront la grande tribulation quand elle viendra? Devons-nous nous méfier de ceux qui affirment faire des miracles? Est-ce que les gens reconnaîtront Jésus-Christ quand il reviendra? Demeurez à l'écoute. Il ne faut pas manquer ce que le pasteur Régent Joly a découvert dans la Bible concernant toutes ces questions. Et demandons à Dieu qu'il nous donne un bon discernement afin de bien comprendre cet enseignement. Prions. Oui, mon Dieu, guide-nous et donne-nous ce discernement dont on a besoin afin qu'on comprenne bien ta parole. Elle n'est pas compliquée, ta parole, mais des fois elle nous semble compliquée parce que nous, on la complique. Alors, aide-nous à discerner la belle simplicité de ta parole et remplis-nous de toi. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude du chapitre 24 de l'Évangile selon Matthieu. Nous la reprenons au verset 14. Dans ce chapitre se trouve le discours du mont des Oliviers. C'est un discours captivant, et il est intéressant de noter qu'il ne parle pas de l'Église. Il parle de la fin des temps. Il répond à la question « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Maintenant, Jésus parle du signe de la fin du monde, et ce signe est la grande tribulation. Certains se demandent « Comment je sais cela ?» Bien, dans quelques minutes, vous verrez que le Seigneur Jésus a utilisé cette expression. Le terme « grande tribulation » vient de Jésus. Débutons notre lecture de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. La bonne nouvelle du royaume est ce que Jean-Baptiste a prêché. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu, chapitre 3, verset 2. De plus, c'est avec le même message que Jésus a débuté son ministère. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu, chapitre 4, verset 17. De plus, lorsqu'il a envoyé ses disciples en mission, c'est le message qu'il leur a demandé de transmettre. Allez, allez prêcher, et dites, le royaume des cieux est proche. Matthieu, chapitre 10, verset 7. Cependant, le Seigneur modifie son message dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et dans Matthieu, chapitre 20, verset 28, il a ajouté, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Cependant, dans la période de tribulation, la bonne nouvelle du royaume est de nouveau prêchée. Ce message n'est pas pour aujourd'hui, car nous devons annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. Est-ce que cela fait de la bonne nouvelle du royaume un autre évangile? Non, mes amis, ce n'est pas le cas. C'est le même évangile avec l'accent placé ailleurs. nous ne pouvons pas annoncer que le royaume des cieux est proche, car nous n'en savons rien. Cependant, lorsque la grande tribulation sera là, les gens sauront qu'ils sont près de la fin, même s'ils ne sauront pas le jour ou l'heure exacte. Alors, le message sera « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Maintenant, permettez-moi de répondre à ceux qui affirment que nous, qui croyons aux dispensations, enseignons qu'il y a plus d'une façon d'être sauvés. Il n'y a jamais eu d'autre fondement que Jésus-Christ et sa mort à la croix pour être sauvés. Les sacrifices faits avant la mort de Jésus-Christ à la croix annonçaient celle-ci, et depuis sa mort, chaque commémoration, chaque repas du Seigneur nous amène à se le rappeler. Pour illustrer ceci, retournons au sacrifice qu'a fait Abel dans le livre de la Genèse, chapitre 4. Abel a présenté un agneau à Dieu. Si vous aviez été témoin de cette scène, vous auriez demandé à Abel, « Pourquoi apportes-tu ce petit agneau? Penses-tu que cet agneau va ôter tes péchés? » Abel vous aurait alors répondu, « J'apporte cet agneau parce que Dieu me l'a demandé. C'est par la foi que je l'apporte. » Vous auriez alors enchaîné avec ces paroles, « Bien, s'il n'efface pas tes péchés, alors à quoi sert la portée ?» Abel vous aurait alors répondu quelque chose à cet effet. Ce petit agneau est une image de celui qui viendra plus tard, de la postérité de la femme, c'est-à-dire ma mère. Celui-là ôtera nos péchés. J'apporte donc cet agneau par la foi, reconnaissant que je suis un pécheur qui a besoin que quelqu'un meure à sa place. Voyez-vous, Abel regardait vers celui qui viendrait un jour. Jean-Baptiste a non seulement dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche » dans Matthieu, chapitre 3, verset 2, mais il a aussi dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », rapporté par l'évangéliste Jean, que nous retrouvons dans Jean, chapitre 1, verset 29. Donc, Jean a identifié Jésus comme étant l'agneau de Dieu. Avant la venue de Christ, quiconque venait à Dieu était sauvé à crédit, en attendant que Christ paie le prix de son salut. Ils étaient pardonnés sur le fondement de la mort expiatoire de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, personne n'a été sauvé par l'accomplissement de la loi. Au cœur de la loi mosaïque se trouvait un système de sacrifice. Les gens apportaient un agneau pour le sacrifier, car la loi leur montrait qu'ils étaient pécheurs, qu'ils désobéissaient à Dieu, et qu'ils avaient besoin d'un substitut pour mourir à leur place. La loi fut donnée afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Parole de l'apôtre Paul, citation de Romains chapitre 3, verset 19. Mes amis, nous avons désobéi à la loi de Dieu, et nous sommes des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Il faut que vous receviez Christ comme votre sauveur avant qu'il ne revienne pour régner et juger l'univers. Alors, il sera un juge sévère. Maintenant, revenons à Matthieu, chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cela ne veut pas dire que l'Évangile devra être prêché partout dans le monde avant que la fin du monde soit arrivée. Certains utilisent ce verset afin de faire la promotion de leur programme d'enseignement biblique. Quoi qu'il soit très louable d'enseigner la Bible aux confins du monde, ce n'est pas ce verset qu'il faut utiliser pour en faire la promotion. Voyez-vous, il faut tenir compte du contexte en interprétant la Bible. Rappelez-vous la question à laquelle Jésus répond : Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Jésus parle de la fin des temps. Poursuivons notre lecture. Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quelle est l'abomination de la désolation? Daniel nous en parle de deux. La première est celle d'Antiochos Épiphane, le Syrien qui a détruit Jérusalem, dans Daniel, chapitre 11, verset 31. Nous lisons. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. L'histoire nous apprend qu'en l'an 170, avant Jésus-Christ, Antiochos Épiphane a détruit Jérusalem et une centaine de milliers de Juifs furent massacrés. Il a mis fin au sacrifice dans le temple. Il a sacrifié un porc sur l'autel et il a aménagé une statue de Jupiter dans le lieu saint afin que le peuple l'adore. Cependant, le Seigneur réfère ici à la deuxième abomination de la désolation, celle que nous retrouvons toujours dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12, verset 11. Et je pense que ce sera une statue de l'Antéchrist qui sera installée dans le temple. Pendant la tribulation, le temple sera reconstruit et la nation d'Israël sera de retour en Palestine. De toute évidence, le Seigneur parle du temple plutôt que de l'Église qui n'a pas de lieu saint. Cependant, nous ne pouvons pas être absolument certains que c'est l'abomination de la désolation dont le Seigneur parle. C'est simplement notre opinion. Je ne suis pas à la recherche de l'abomination de la désolation. Je ne la reconnaîtrais pas si je la croisais dans la rue. Cependant, les gens la chercheront pendant les derniers jours, car elle sera la preuve qu'ils sont dans la grande tribulation. Plutôt que de chercher l'Antéchrist et son abomination, Dieu nous demande d'attendre. La bienheureuse espérance est la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Citation des paroles de l'apôtre Paul, tirées de l'épître de Tite, chapitre 2, verset 13. Le Seigneur a dit, « Que celui qui lit fasse attention. Ceux qui vivront pendant la tribulation comprendront. Puisque nous n'y serons pas, Jésus ne nous a pas donné beaucoup de détails. Lorsque l'abomination de la désolation paraîtra, poursuivons notre lecture, verset 16. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Vous et moi ne sommes pas appelés à fuir dans les montagnes de Juda. Beaucoup d'entre nous sommes près du Mont Royal ou des Laurentides ou de toute autre chaîne de montagnes. En fait, Jésus s'adresse aux Juifs, aux habitants d'Israël. C'est pour eux cette prophétie, pas pour nous. Verset 17. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. En Palestine, les toits de maison correspondent à nos patios et nos vérandas. Le Seigneur s'adresse à des gens vivant en Palestine, pas à nous. Cet avertissement ne s'applique pas à nous. Nous ne vivons pas sur nos toits. Verset 18. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Ici, Jésus s'adresse aux agriculteurs. Si un ouvrier agricole laisse son manteau au bord d'un champ et qu'on annonce l'arrivée de l'abomination de la désolation, il doit s'enfuir sans se préoccuper de son manteau. Verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Jésus manifeste son souci et amour pour les mères et les petits-enfants. Il viendra un jour où il sera préférable de ne pas avoir d'enfants, toujours en Palestine. Plusieurs croient que la terre sera surpeuplée au début de la grande tribulation. La croissance phénoménale de la population mondiale est une indication que nous approchons de la fin des temps. Verset 20. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Nous voyons que Jésus s'adresse à des gens qui observent le sabbat, qui est le samedi. Cela prouve encore une fois que Jésus s'adresse directement aux Juifs. Les chrétiens vont à l'église et observent une journée de repos qu'on appelle le dimanche. Jour de la résurrection de Christ, non le samedi, qui est le jour de sabbat. Verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Car alors, la détresse sera si grande. Dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 14, la traduction littérale de cette expression est la tribulation, la grande tribulation. Afin de mettre l'accent sur la grandeur de la détresse, l'article est mis devant le nom et l'adjectif. Autrement dit, cette tribulation sera unique par son atrocité. Remarquez que c'est le Seigneur qui emploie le terme « grande tribulation ». Si vous avez des problèmes avec cette expression, parlez-en au Seigneur, pas à moi. Qu'il n'y en ait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Puisque cela est vrai, croyez-moi, les gens reconnaîtront la grande tribulation lorsqu'ils la verront. Des gens affirment que l'Église verra la grande tribulation. Ces gens ne se rendent pas compte de l'ampleur et de l'atrocité de cette tribulation. Certains pensent que nous sommes présentement dans la tribulation. C'est vrai que les choses sont loin d'aller bien, mais les choses en furent ainsi à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Lorsque la grande tribulation viendra, elle dépassera toutes les détresses passées ou futures. Verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous lisons dans l'Apocalypse qu'un tiers de la population mondiale sera détruit pendant la grande tribulation. Un quart de la population sera exterminée à une autre occasion. Cette tribulation sera unique. Si l'on considère les symboles du chapitre 6 de l'Apocalypse, le cheval roux de la guerre, le cheval noir de la famine et le cheval verdâtre de la mort décimeront la population mondiale. Autrefois, des commentateurs considéraient que ce texte était une hyperbole, c'est-à-dire une exagération. Maintenant, vu la prolifération des armes nucléaires et des armes de destruction massive, l'homme a la capacité de détruire la planète. Il ne semble plus que ce texte soit une exagération. Cependant, il y a un élément de réconfort dans ce verset. À cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu ne laissera pas l'humanité faire un suicide collectif. C'est pourquoi la période de tribulation sera de courte durée. Maintenant, Jésus donne le signe de sa venue. Versets 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Les prochains faiseurs de miracles seront l'Antéchrist et ses faux prophètes. Aujourd'hui, il faut se méfier de ceux qui affirment faire des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Qui sont ces élus? Nous retrouvons deux groupes d'élus dans la Bible, la nation d'Israël et l'Église. Il faut se servir de notre bon sens pour déterminer de quel groupe parle Jésus. De qui Jésus parle-t-il jusqu'ici? D'Israël. Donc les élus, c'est Israël. Jésus ne parle pas de l'Église. Vous pouvez tromper certaines personnes un certain temps. Vous pouvez tromper tout le monde un certain temps. Mais vous ne pouvez pas tromper les enfants de Dieu tout le temps. Cela ne peut simplement pas être fait. Il y a une fois, une femme s'est retirée d'une secte religieuse. Elle écoutait l'émission du Dr. J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, pendant quelques mois. Et un jour, elle a compris les erreurs de la secte qu'elle fréquentait. « On ne peut tromper les enfants de Dieu tout le temps. Ceux qui se laissent séduire par une secte en sortiront éventuellement. » Versets 26 et 27. « Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. » Lorsque Jésus reviendra, il n'y aura pas de précurseur comme Jean-Baptiste pour annoncer sa venue. Lorsqu'il viendra, le monde entier le verra. Il sera aussi visible qu'un éclair. Lorsqu'un éclair frappe, il se voit de loin, de très loin. Parfois, les éclairs sont même effrayants. Le retour de Jésus-Christ sur terre sera semblable à cela. Il ne sera pas nécessaire de l'annoncer. Lorsque Christ viendra établir son royaume, tout le monde le verra revenir. Sa deuxième venue n'est pas la même chose que l'enlèvement. Verset 28. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Ceci est le verset le plus difficile à comprendre du discours du mont des Oliviers. Il semble étrange que Jésus parle d'oiseaux rapaces après avoir parlé de son retour semblable à l'éclair. Je pense que cela se réfère à la venue de Christ. La venue de Christ pour le jugement, car l'Apocalypse 19 nous parle d'une invitation faite aux oiseaux afin qu'ils se rassemblent pour un banquet. L'Apocalypse, chapitre 19, versets 17 à 19. « Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. » Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Ces oiseaux qui se nourrissent de charogne semblent être des agents du jugement de Dieu. Lorsque Christ reviendra, il sera aussi un juge. Verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Notez que cela se produira immédiatement après la tribulation. Je crois que ces choses se produiront à la deuxième venue de Christ sur terre. Versets 30 et 31. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Le temps nous manque ici pour vous parler que ce temps concerne bel et bien la nation juive et non l'Église. Quel est ce rassemblement dont nous parle le texte? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 24 verset 32 jusqu'au chapitre 25 verset 30.
Merci Régent. J'oserais pas ajouter quoi que ce soit à tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui concernant la fin des temps. Mais j'ai bien aimé tout ce que la Bible nous a révélé à ce sujet. Par contre, j'aimerais retourner à ce que tu nous as dit concernant ceux qui sont sauvés. C'était encore bien plus clair aujourd'hui qu'il y a juste un moyen d'être sauvé, un seul moyen d'être sûr que quand on va mourir, on va aller au ciel. Et j'ai bien aimé entendre de nouveau qu'il n'y avait jamais eu d'autre fondement que Jésus-Christ et sa mort à la croix pour être sauvé, et que les sacrifices faits avant la mort de Jésus à la croix annonçaient celle-ci. quand je pense que les gens qui offraient des agneaux sur un autel démontraient leur foi en l'agneau de Dieu qui viendrait un jour pour ôter le péché du monde, être immolé sur une croix afin d'être notre substitut, afin d'être mon substitut, ton substitut. Ô, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à Jésus, mon sauveur bien-aimé. J'aime bien regarder le portrait de Jésus dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. L'une des images qu'il nous donne de Jésus est tellement touchante. Au verset 7, on peut lire que Jésus a été maltraité et opprimé et qu'il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Et il répète, il n'a point ouvert la bouche. Imagine, mon ami, c'est de Jésus qu'Ésaïe parle. Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Dieu qui a pris un corps d'humiliation comme le nôtre, qui s'est laissé immoler comme un petit mouton sans défense, afin de payer la dette de nos péchés. On ne peut pas même imaginer à quel point il a souffert. Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. A-t-il ôté ton péché? Es-tu arrivé à un point dans ta vie où si tu devais mourir, tu serais sûr d'aller au ciel? Pour être certain de ça aujourd'hui même, tu as juste à mettre toute ta confiance dans le sacrifice expiatoire de Jésus, cet agneau de Dieu qui est mort sur la croix pour toi. Son Père a agréé son sacrifice parce que Jésus était pur et sans tache. J'aurais pas pu donner ma vie pour payer pour tes péchés, parce que j'étais moi-même une pécheresse perdue, jusqu'au jour où je me suis repentie, le jour où j'ai demandé à Jésus de me sauver, de me donner la vie éternelle. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est de te dire que toi aussi, comme moi, tu dois te repentir, que tu dois recevoir Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Crois-tu en lui? Demande à l'agneau de Dieu d'ôter ton péché, de te sauver en ce moment même. C'est certain que si tu crois en lui de tout ton cœur, il va le faire. Demande-lui de te donner la vie éternelle. Il a dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Imagine-toi la joie de savoir que tu es pardonné et que éternellement, tu vas vivre avec Dieu, dans sa présence, dans sa joie. Oh, demande à Jésus de te sauver. Reconnais-le comme ton sauveur, comme ton Seigneur.
Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous! Vous pouvez recevoir par le feu même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-LESPOIR, ou via notre site internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly qui vous dit à demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.